Veuillez s'il vous plaît ouvrir vos Bibles en psaume 119. Nous allons lire à partir du verset 161 au verset 168. Je voudrais encore vous rappeler que ce que nous voulons lire n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Psaume 119, verset 161. Au verset 168. Des princes me persécutent sans cesse, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le juste, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Prions. Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce pendant que nous étudions ta parole et que tu nous aides dans la proclamation de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas avoir confiance en des choses humaines, mais nous avons confiance en ton esprit et nous prions que tu prennes ta parole et que tu nous changes, que tu nous donnes la grâce pour que nous puissions nourrir notre âme. Nous demandons cela au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous considérons aujourd'hui l'avant-dernière session des psaumes 119. Vous voyez, nous avions déjà vu cela dans le livre de Psaume 119, que ça c'est une manière importante de voir les Écritures. Il y a les versets et toutes les parties. L'attention est sur la parole de Dieu. Et dans chaque session, il y a de différentes compréhensions. Aujourd'hui, nous voyons un certain nombre de choses, y compris l'évidence de la grâce salvatrice. Quand nous parlons de la parole, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous expérimentons dans nos vies l'œuvre de Dieu, l'œuvre de rédemption, de salut? Il y a des choses qui nous viennent parce qu'il y a des choses qui vont nous revenir à l'esprit. Il y a six choses, quand nous voyons le passage du jour, nous allons nous rendre compte de ces six choses. L'évidence de la grâce salvatrice, c'est l'obéissance. Même lorsque il y a la persécution, nous sommes fidèles à l'obéissance de ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Il y a la joie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que je vais lire la parole de Dieu, parce que non, il y a un plaisir que nous avons en lisant la parole de Dieu. Dans notre processus de sanctification, les bénéfices, les profits que nous avons, les avantages que nous avons la joie. Il y a la joie en lisant de la parole de Dieu. Il y a la haine. En dehors, la première chose, c'est l'obéissance à la foi. La deuxième chose, c'est la joie dans la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est la haine du péché. La haine du péché, ça veut dire que nous savons que le péché est méchant, est mauvais, et nous détestons cela, nous haïssons cela. Et ensuite, numéro 4, c'est que l'admiration fréquente de la bonté de Dieu. Nous savons que ce que Dieu a fait, c'est bon, ce qu'il a fait pour son peuple, c'est bon. Et donc, le cinquième point, c'est la conscience de notre foi et de notre obéissance. Nous savons que nous, consciemment, nous devons lui obéir. Et enfin, c'est le témoignage approuvé de tout ce qui concerne notre foi envers Dieu et envers nos prochains. Nous allons voir ce passage, nous allons prendre un verset après l'autre. Nous allons lire d'abord parler du verset 161. Le psalmiste parle de lui-même comme celui qui était persécuté par les princes. verset 161, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Sans cause, ils me persécutent sans cause, ils cherchent à m'affliger. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin, mais ce sont les princes du pays, ce sont les rois du pays. Alors, ils ont décidé de me persécuter. Ce n'est pas que tu vas les voir ça et là, et que tu vas faire cette chose ou cette chose, mais ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils ont l'opportunité, ils ont les ressources. Alors, il dit, les leaders de mon pays ont décidé de me persécuter, et moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas de méchanceté, je n'ai pas de mal. Et vous savez encore que ces phrases que nous voyons à travers toute la Bible, David ne dit pas que je n'ai jamais commis de péché dans ma vie. Ce n'est pas comme Paul qui dit, quand il écrit le livre de Romains, il dit que ce n'est pas justifié. C'est une attaque qui n'a pas de sens. Je n'ai rien fait qui mérite cette attaque. Et il dit sans cause. David était sans culpabilité. Il ne pouvait pas être blâmé. Il a été attaqué par ceux qui devaient l'offenser. Quel était le rôle du gouvernement du roi dans l'Ancien Testament pour pouvoir et faire l'usage de cela? Et donc, à ce moment, c'est le rôle du berger. C'est le rôle du berger. Et donc, je m'amuse. Le psalmiste dit non, qu'ils cherchent à me faire. Ils sont supposés me protéger. Malgré cela, ils m'ont persécuté, ils m'ont éprouvé, ils m'ont tenté. Et dans tout cela, dans toute la parole de Dieu, l'autorité et les préceptes de l'Éternel, ils m'ont fait du mal. Et Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 12, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Donc il dit qu'il nous a appelés à nous préparer pour tenir dans toute sa parole et d'agir en fonction de ce qu'il a enseigné et de son commandement. Il dit, je suis persécuté par les rois de la terre, les princes. Les princes me persécutent sans cause. Mon cœur ne tremble pas qu'à tes paroles. Et donc, la réponse à la crainte de Dieu, quand nous voyons la première des évidences de la grâce salvatrice, c'est l'obéissance. L'obéissance à la foi, même lorsque nous sommes persécutés. Ça, c'est la première évidence des gens qui connaissent Dieu en réalité. Ce sont des gens qui désirent être fidèles, l'obéissance à la foi, même si il y a la persécution, même lorsqu'il y a des difficultés, des défis, et que nous voyons des choses autour de nous, cela nous rappelle que des gens qui vont parler, proclamer les bonnes paroles de la religion, et qui vont dire, Jésus, oh, nous t'aimons, ça c'est une bonne chose, ils vont dire, ça c'est une bonne église, ça c'est une bonne manière de travailler avec Dieu, bien que les choses soient dures. Et donc, comme le psalmiste nous fait parcourir ce verset, il dit, des princes me persécutent, ils veulent me détruire, ils font du mal. Mais moi, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je vais être fidèle. Ils sont fidèles. Fidèles même lorsque la religion paraît difficile. Dans le verset 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole. Au milieu de la persécution, je me réjouis dans ce que Dieu m'a dit. Comme je suis dans ce passage, il dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. C'est comme si vous êtes allé à une grande bataille et vous avez, il y a des gens qui se sont tués. Et donc, il y a le butin qui était là, les choses importantes que les gens là ont quand vous avez combattu. Et il dit que, en tant que des combattants, vous avez du butin, vous avez dominé. Et il dit, je me réjouis de ta parole, comme si nous avons gagné la bataille. Et donc la même chose. Il dit, je me réjouis de ta parole, comme Israël était béni. Donc Israël était béni avec la lumière. Lorsque le peuple était encore dans les ténèbres, il a pris plaisir en lisant et en méditant la parole de Dieu, en sachant que tout ce qu'il lit est agréable à lui. Donc si nous avons de la révélance à la parole de Dieu, nous avons de la joie. Nous apprenons à prendre plaisir à sa parole, à jouir de sa parole et à utiliser sa parole. Et donc, tout comme Israël, David, nous allons nous réjouir dans la parole de Dieu comme celui qui a trouvé une perle d'un grand prix, qui dit, mon cœur se tient sur toutes tes paroles, je ne me suis pas laissé à quelque chose qui importe peu. Dieu me parle. Et comme vous voyez, à tout moment, d'une manière ou d'une autre, nous sommes poussés à nous demander, pourquoi suis-je ici? Nous sommes ici pour écouter Dieu nous parler. Nous sommes là pour parler à Dieu, c'est ce qu'il dit. Nous sommes en réalité en communion avec Dieu comme ses enfants. Alors, il était ainsi avec David. Et nous aussi, nous sommes là et nous avons les mêmes expériences. Il dit que j'écoute Dieu parler. De temps en temps, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. C'est comme si parfois il y a des choses qui ne se passent pas comme nous les avions planifiées, prouvées. Je ne suis pas né belle, je ne suis pas né intelligent, je ne suis pas né. Voilà comment je suis né. Mais je pense qu'il doit y avoir des erreurs humaines de la part de ceux qui ont fait des choses. Qui ont fait des choses comme si. Mais quand nous voyons ce à quoi Dieu nous a appelés, et nous voyons les difficultés auxquelles, et même si les choses sont misérables, lorsque ceux qui me détestent me font du mal et qui ont le pouvoir de me faire du mal, toutefois, je suis toujours avec Dieu. Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation comme cela où tu voulais parler à quelqu'un? Et que tu te dis que je traverse des difficultés, des défis, et que tu te dises que c'est une grande bénédiction. Qu'en est-il si cet individu était ton Dieu? Et il a parlé, il nous a parlé, il nous a dit ce qu'il veut que nous connaissions. Et le psalmiste dit, ça c'est merveilleux. Je me réjouis de ta parole. Il dit, en tout, je suis tout ce que je veux écouter que Dieu enseigne pour que je me réjouisse. Le degré de ce plaisir, comme nous voyons cela, c'est la manière dont nous écoutons la parole de Dieu avec joie. C'est à travers beaucoup de positions que nous avons. Cela suppose une grande victoire. Nous avons la victoire. Matthieu Henry a dit, outre le plaisir et l'honneur d'une conquête, le pillage du champ de la bataille procure un grand avantage, une grande joie qui ajoute beaucoup à la joie. Par la parole de Dieu, nous devenons plus que des vainqueurs, c'est-à-dire des gagnants inestimables. Nous nous réjouissons comme Dieu bâtit son Église. Cela nous amène à la deuxième évidence de la grâce salvatrice, qui est d'avoir de la joie dans la parole de Dieu. Nous aimons cela parce que cela nous enseigne des choses que nous ne pouvons écouter ailleurs. Alors nous voyons l'évidence dans notre attitude quand nous venons par la foi en Dieu. Je me rappelle lorsque
Mon papa m'avait donné une copie de la Bible, j'avais 16 ans, et c'était le pire des cadeaux que j'ai reçus. Moi, je n'avais pas d'intérêt à ce qui était dans la Bible. J'allais à l'église comme tout autre enfant, et je me comportais d'une manière acceptable, mais je n'avais pas d'intérêt pour la Bible. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris l'évangile, j'ai embrassé Christ comme mon sauveur, et subitement, je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. C'est comme si je commence par lire un texte en latin et que je commence par lire cela en anglais. Un peu, parce que je ne comprenais pas bien le latin et que je comprends l'anglais. En lisant ça en anglais maintenant, ça commence par avoir un peu de sens pour moi. La parole de Dieu me donne la joie. Dans le verset 163, ces versets-là sont de courts versets. Toutes ces parties, ces versets sont courts. Et dans le verset 163, il dit, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. J'aime la loi de Dieu. Je déteste le mensonge. L'amour et la haine sont des choses opposées. Il y a des choses que nous allons aimer, il y a des choses que nous devons détester. On doit haïr cela, comme le psalmiste le dit. Nous devons avoir une grande haine. David détestait le mal. Il détestait le mal. Et lui-même, il a dit cela dans la parole, dans sa parole. Il dit que je déteste le mensonge. Il ne veut pas contredire Dieu et ses réalités. C'est comme si vous voulez faire les choses autrement dans le monde. Vous pensez que les choses doivent se faire autrement. Et que vous déclarez, vous dites que voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je pense. Il dit mentir, c'est l'hypocrisie. C'est le mensonge. C'est une contradiction avec la parole de Dieu. Dans le catéchisme élargi, nous allons lire cela pour des raisons que nous comprenons. Mais il dit, dans le catéchisme élargi, a posé deux questions. D'abord, quel était le neuvième commandement? Ça, c'est facile. Il dit, le neuvième commandement, qu'est-ce que cela exige et qu'est-ce que cela déteste? Cela exige des choses comme la vérité, dire la vérité et uniquement la vérité. Il faut recevoir des rapports et également admettre, garder les lois, la loi et pratiquer cela, quel que soit ce qui est la vérité. Voilà, c'est une portion de ce qui est vrai. Et cela donne la joie dans nos pensées. Et il dit, qu'est-ce que la loi exige de nous? Il ne dit pas que tu dois faire attention pour dire la vérité, mais tu dois dire, faire attention pour promouvoir la vérité dans toutes les parties et les promotions et parties de ta vie. Donc, mentir est une offense à Dieu. Et donc, le psalmiste écrit, il dit que je déteste le mensonge. Pourquoi est-ce qu'il va détester le mensonge? Parce qu'il aime Dieu. Parce que Dieu déteste le mensonge. David aime la parole de Dieu. Alors, il déteste le mensonge parce que c'est contraire à la loi de l'Éternel. Il aime la loi de Dieu à cause de sa vérité. Plus nous voyons la beauté de la vérité, alors nous voyons la mauvaise chose du mensonge, c'est d'embrasser quelque chose qui, il faut devenir l'évangéliste de ce qui est bien. Il faut pas être évangéliste, il faut pas faire la promotion de ce qui est mauvais. Alors, la troisième évidence de la grâce salvatrice, c'est de détester le péché. C'est de détester le péché. Quand nous voyons les choses et que nous disons que nous devons être des gens qui devons, et nous sommes des sauveurs, ces pécheurs qui nous sommes repentis, qui nous sommes détournés du péché, qui nous sommes tournés vers Dieu, et quand nous contemplons ce que la vie du converti est, une des choses pour lesquelles on nous rappelle, c'est qu'il déteste le mensonge. il hait le mensonge. Verset 164. Sept fois le jour, je déteste et je te célèbre. Sept fois le jour, je te célèbre. Pourquoi pas six fois? Sept fois le jour, je te célèbre à cause de tes lois, de ta justice. Il est en train de parler dans une figure de style. Il parle de la routine et de la régularité. Et la grandeur, le nombre de fois, il dit sept fois. Il dit, l'enfant de Dieu ne doit pas manquer de raisons pour lesquelles il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu toujours. Tu vas louer Dieu pourquoi? Et comme, est-ce qu'il a fait quelque chose? Oui, il a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Et donc, tu dois le louer en tout temps. Il dit sept fois. Ça veut dire que toute la journée, en tout moment, lorsqu'il y a quelque chose concernant le Créateur, nous pouvons commencer par le louer pour ce qu'il a fait. Pas seulement lorsqu'il nous fait sortir des difficultés, ou bien qu'il nous a guéri de certaines maladies, ou bien qu'il nous a délivré de la fausse, des faux enseignements. Non, ce n'est pas ça, mais en tout lieu, partout. Nous sommes des hommes et des femmes qui pouvons faire ce que le Seigneur nous demande. Et nous voyons d'autres personnes qui croissent dans la grâce. Nous voyons Dieu qui agit dans nos vies et nous marchons dans son chemin. Nous le glorifions et c'est lui qui l'a fait et non nous. Cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Un enfant de Dieu ne doit pas manquer des occasions pour louer Dieu. Il ne doit pas manquer de saisir toutes les opportunités pour louer Dieu. Gloire à Dieu, louez Dieu et louez-le comme il exige. Louez-le sept fois à tout moment. Ça, c'est ce qui doit être fait souvent avec toute la plénitude. Il faut louer Dieu comme un devoir. Ça doit être pour nous un devoir en toute occasion, en toute opportunité. Nous devons le louer. Nous devons le louer sept fois. Sept, le chiffre sept, c'est la plénitude. C'est la complétude. Nous sommes là. Nous le louons pour ses bontés. Nous le louons parce qu'il est juste. Ses jugements sont justes. Sa parole est vraie et juste. Nous le louons parce que sa parole est vraie. Parce que ses promesses s'accomplissent. Et il accomplit des merveilles. Et cela nous permet de découvrir la gloire de Dieu. Et la parole inspirée de Dieu à travers laquelle nous sommes convaincus à aimer Dieu et à être fidèles jusqu'à la fin. La quatrième évidence de la grâce salvatrice, c'est l'admiration constante de la grâce de Dieu. L'admiration constante de la grâce de Dieu. Et donc, quand nous voyons ce moment, nous pouvons nous sentir comme si apparemment, nous parlons à nous-mêmes. C'est une chose, les gens peuvent penser que tu es en train de parler au téléphone. Parfois, je ne suis pas supposé rentrer dans une conversation, mais je rentre dedans. Et c'est comme nous sommes, quand tu te retrouves à mettre ta bouche dans ce à quoi tu n'es pas supposé mettre ta bouche, c'est que tu te sens embarrassé. Et comme nous louons, nous parlons de louer Dieu et que il y a des gens qui nous regardent et qui disent ah voilà il a fait. La grâce salvatrice nous amène dans un monde où nous ne pouvons pas ne pas adorer Dieu parce que il a fait ce qui est juste. La grâce salvatrice est ce qui nous donne le désir de jouir, de célébrer le Seigneur, de détester le péché et de voir les bontés de Dieu. Dans le verset 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu et qui font de la loi de l'Éternel leur règle, alors il leur arrive la paix personnelle qui vient à travers l'obéissance personnel, la grande paix, la paix, et il ne leur arrive aucun malheur.
La paix, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Quand nous essayons d'enseigner l'amour de Dieu, il y a des choses qui nous repoussent dans notre culture parce que nous menons notre vie dans un monde où il est supposé que Dieu n'a pas de pouvoir sur qui que ce soit par rapport à ce qu'il faut faire. C'est comme si nous aimons tellement notre liberté que nous ne voulons même pas que quelqu'un nous dise de faire ce qui est bon. Quelque chose qui est bien ici peut être mauvais ailleurs. Les gens parlent de la loi de l'Éternel qui est relative, mais ce n'est pas bien. Mais nous sommes créés dans l'univers, dans la création. Lorsque Dieu a établi ses premiers hommes, il a dit ce qu'il a dit, c'est très vrai. Sa loi est toujours parfaite. Alors, il dit, il y a la grande paix qui appartient à ceux qui aiment sa loi, à ceux qui savent marcher là où il faut aller à gauche et là où il faut aller à droite. Et cela conduit à l'obéissance de Dieu qui apporte la joie et la réjouissance. Ésaïe chapitre 32, verset 17. Ésaïe 32, verset 17. Il dit, l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Cela nous amène à avoir l'obéissance, la fidélité pour continuer à marcher dans la loi du Seigneur, selon le chemin du Seigneur. S'il n'y a pas de paix et il y a des difficultés, il y a les épreuves, alors nous n'allons pas pouvoir faire ce que... Il n'est pas... David n'était pas paranoïque. C'est vrai que les princes de ce monde me persécutent. Il sait qu'il faut garder la loi. Il a la paix. Il sait qu'avec Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu ont la grande paix. La grande paix. Et leurs attentes sont comblées. Et Dieu fait les choses. Il les amène là où ils doivent être en sécurité. Rien ne doit être scandale, ne doit être un sujet d'inquiétude pour eux. Mais ils doivent être prêts à subir, à supporter toute difficulté, toute affliction. Mais s'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de salut. Mais Dieu nous a promis avec plusieurs fois que si nous marchons sur le chemin qu'il a tracé pour nous, et quand nous voyons les apôtres qui nous rappellent leur proclamation, ils disent, même si ce n'est pas la chair, Dieu fera le chemin. Le chemin d'échapper. Le psalmiste ici dit, rien de cette tentation ne peut être parlé. On ne peut pas parler de comme des tentations inévitables, non. Quel que soit ce qui arrive, je sais que je suis sauvé. Je suis protégé parce que j'aime la loi de Dieu. L'amour pour la grâce de Dieu, la loi de Dieu va me garder. Il ne va pas aller contre ce que Dieu a fait et ceux en qui il a eu la confiance. Il y a l'amour. Là où l'amour règne, il ne doit pas avoir des intérêts égoïstes. Le psaume maintenant 165, verset 119, verset 165. Calvin a écrit de cela. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et c'est comme 4 ou 5 notes de pages de notes de Calvin. Et il dit, il parlait de... Calvin dit, concernant l'obéissance à la parole de Dieu, il dit, quel que soit ce que, comment nous entendons, mais de quelque manière que l'on entende ces deux mots, paix et pierre d'achoppement ou bien blocage, le dessein du prophète reste le même, qui est de montrer que ceux qui ne sont pas dévoués à Dieu sont misérables, car ils peuvent s'applaudir pendant un certain temps. Ils rencontrent cependant de nombreuses pierres d'achoppement ou bien difficultés qui les feront brusquement dévier de la route. Du terme amour, nous déduisons que cette paix ne s'acquiert pas par l'observation servile de l'homme, mais qu'elle procède de la foi, car la loi n'a aucune douceur que pour nous attirer à elle, si elle ne nous présente Dieu sous les traits d'un Père
et si elle ne tranquillise notre esprit par l'assurance du salut éternel. Alors, Calvin nous encourage à savoir que quelle que soit la manière dont nous nous applaudissons et que nous disons « Ah, ça, c'est un bon garçon, ça, c'est une bonne fille. » Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Et nous allons connaître des défis, des difficultés, mais nous devons trouver notre espérance dans la foi de Dieu, dans toutes ces choses. Il écrit d'une manière, en parlant de l'obéissance et les incertitudes de la vie. Il dit que les choses qui arrivent plusieurs fois, que ce soit les choses difficiles qui arrivent pour nous faire tomber, il dit que les difficultés, les défis dans la parole, les animaux pour lesquels les choses des animaux dans la communication, bien que les choses de ce monde et que en ce moment tout ce qui est intense dans notre foi devient un. Et donc, quand vous voyez des animaux qui vont vous poser la question, pourquoi est-ce que tu les crains? Et alors, il continue en disant, celui en qui, par chance, cela a été affecté à travers ces choses, ses femmes et ses enfants vont le craindre, et même les animaux sauvages. Et il continue en disant, quels sont les désastres que les gens de ce monde connaissent? Qu'est-ce que l'homme va sortir de sa propre maison sans être associé à des actions, à des accidents et imprévus? Il traverse le monde et il n'a pas de difficultés, de défis. Il marche sur son propre chemin. Et il a brisé son pied sans que personne le fasse. Il dit que il voulait faire la chose et puis il a cassé le pied. Nous venons au début de ce qu'il a dit. Il dit partout où nous allons, quelles que soient les parties de notre vie, il y a des choses qui se passent autour de nous. Il y a des opportunités pour avoir la mort, le chagrin, les défis, et même les gens qui pensent qu'ils peuvent réussir dans la vie sans difficulté, ils trébuchent et tombent. Alors Calvin et Augustin, ils nous rappellent que personne n'est sauvé si ce n'est des gens qui sont gardés en Christ. Cela devient ce qui nous enseigne, et nous allons à des endroits qui sont là, personne ne va te faire du mal, ne leur dire de mauvaises choses te concernant. Ils vont faire des promesses qui vont te donner de bonnes personnes, des gens qui marchent selon la voie de l'Éternel, et ils n'ont aucun autre moyen de s'échapper. La parole souveraine et puissante de Dieu détruit les œuvres de Satan. La vie va évoluer partout. Tu vas savoir qu'il n'y a pas d'espérance lorsque tu échappes. Sinon, si tu échappes pour aller à la parole de Dieu, il y a l'amour de Dieu qui va nous aider. Nous n'allons pas dépendre de ce que Dieu a dit, de ce que nous pensons, mais nous devons dépendre de ce que Dieu lui-même dit. Il faut voir maintenant la situation dans laquelle nous sommes. Dans le verset 166, j'espère en ton salut. Le psalmiste dit que j'espère en ton salut. Et il dit, ô Éternel, je pratique tes commandements. Je te regarde pour être celui. Je veux te voir, toi qui m'as sauvé. Je veux que tu puisses avoir tes yeux sur Dieu, ce qu'il a vendu pour le salut. J'ai l'espérance pour avoir mon salut. Alors j'ai laissé tout ce qui me concerne, mes richesses, mes trésors, je les laisse. Personne ne peut avoir ce dont il a voulu, mais si ce n'est la parole de Dieu, je l'ai fait. Et pas comme il a fait toutes choses qu'il devait faire, mais il dit qu'il est un homme qui aime Dieu et il veut garder dans sa pensée la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit que nous devons espérer pour avoir le salut de Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour demander à ce qu'on marche selon les commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Jean dit que voilà, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et si nous l'aimons, nous aimons dans notre relation avec les êtres humains, nous voyons déjà cela, non seulement entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, les voisins, nous voyons encore et encore, cherchant à comprendre ce que ça veut dire aimer quelqu'un. Si nous sommes cruels, nous sommes dans le mal à cause de l'amour que j'ai pour toi, mon frère, vous avez besoin de pouvoir tenir ferme parce que nous aimons Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire ses commandements, obéir à ses commandements, suivre ce que Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas espérer avoir le salut de Dieu si nous ne nous laissons pas à suivre les commandements de Dieu. Si vous voulez suivre les commandements, vous devez toujours espérer en Christ. Et cela, l'espérance est nourrie par notre obéissance à Dieu. Et donc, il nous permet d'être obéissant avec Dieu. Nous trouvons notre amour en lui. Nous trouvons tout ce que nous voulons avoir. Alors, notre obéissance doit continuer. Et donc, il nous appelle à aimer Dieu à travers l'œuvre de salut que Christ a fait. En aimant Dieu, j'ai vu ce que Dieu aime, ce que Dieu veut que nous fassions. Parfois, il y a nos propres traditions qui arrivent et qui ne sont pas en lien avec la parole de Dieu. Peut-être que si nous disons que nous, il est qui? Il y a quelqu'un, il y a un ami qui pensait que tout ce qu'il, sa femme aimait, il aimait tout ce qu'il aimait, sa femme aimait. Non, ce n'est pas comment Dieu agit. Dieu va agir. Il va nous faire traverser, il va accepter que nous traversons des choses difficiles, mais nous devons toujours l'aimer. Et s'il y a des choses que nous devons comprendre sur les choses qu'il aime, et s'il nous demande ceci, et que nous disons, voilà mon langage d'amour, gardez mes commandements, faites ce que je vous ai demandé de faire. Alors nous gardons un œil sur la parole de Dieu, tout comme la règle et la cinquième évidence de la grâce salvatrice, c'est la conscience de sa loi. Nous aimons sa loi et nous savons également que nous sommes sauvés à travers cela. Verset 167 et le verset 168. Ici, le psalmiste nous parle de sa conscience. Il dit, mon âme observe tes préceptes. Je les aime. Je les aime beaucoup. Je garde tes préceptes, tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Mon âme observe tes préceptes. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup abondamment. Il dit, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Écoutez, les commentateurs ont dit que le croyant, lorsque le croyant a trouvé la grâce salvatrice en lui, il doit examiner cela encore. Dieu va vous changer. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire, ah, que voilà comment Dieu m'a changé. Parce que vous pouvez lutter à trouver notre sanctification comme nous progressons dans la parole de Dieu. La sanctification, c'est un processus lent. Cela peut prendre 5 ans, 10 ans, même avant votre conversion, quand vous pouvez être dans la foi en tant qu'adulte, et vous dites, waouh! Il dit, c'était moi qui fuyais, mais Dieu m'a sauvé, m'a délivré de telle ou de telle chose. Le psalmiste dit, il faut penser à comment Dieu vous a toujours porté.
et comment il vous a aimé, il vous a aidé à croître dans la foi, comment il vous a amené à avoir confiance en lui à cause de notre foi, parce que tes yeux sont sur moi en tout temps. Je suis dans l'esprit, j'aime ta loi, et nous devons également apprendre et accroître, nous devons obéir à sa loi. Cette évidence, la sixième évidence de la grâce salvatrice, c'est le témoignage de l'esprit concernant ce que nous faisons. Et comme nous voyons ce psaume, nous avons lu les passages que nous avions lus, et nous devons comprendre que pendant ce congé, vous devez m'excuser, mais je ne vais pas prêcher la semaine prochaine. Nous allons faire une pause pour quelques semaines. Je serai en congé, et après, nous allons voir les derniers passages de ce psaume. Nous voyons ici, lorsque le psalmiste est en train de faire la conclusion, il nous instruit concernant la nature de la vraie religion. Il dit que c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la joie dans sa parole. Ce n'est pas une obéissance. Et il dit que ce n'est pas ça. C'est des choses que nous devons vraiment suivre Dieu, et que nous devons vraiment conserver Dieu, le témoignage de Dieu. Cela doit être clair. Nous devons savoir que nous avons de la joie en lui. Nous devons haïr le mal. Nous devons détester le mal. Nous devons avoir l'amour pour la bonté de Dieu pour nous. Nous avons une foi sincère, un cœur sincère. Et voilà ce en quoi ressemble la vraie vie, la nouvelle vie. Le peuple de Dieu doit obéir à ses lois. Ils doivent prendre plaisir en sa loi. Ils doivent détester la désobéissance. Et le psalmiste nous interpelle et il dit que nous devons le suivre. Nous devons le chanter comme notre témoignage et dire que voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu continue de faire et ce qu'il continuera de faire dans la vie de ceux qui l'adorent. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce psaume, la parole, ta parole. Tu ne nous as pas laissé de côté pour ne pas comprendre les choses. Tu ne nous as pas délaissé à des choses qui vont nous amener à poser la question comment est la vie chrétienne, mais tu nous as enseigné clairement dans les Saintes Écritures. Nous prions que tu nous aides à pouvoir être fidèles à tes commandements. Donne-nous la grâce à être fidèles. Aide-nous à détester le péché avec toute notre énergie et aide-nous à aimer ta loi dans tout notre cœur. Donne-nous la grâce afin que nous puissions te rencontrer au moment venu. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen.